C'est un grand honneur de vous présenter le lauréat du prix Nobel du physique.
La pure connaissance scientifique. La tête.
C'est un exercice intellectuel.
La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter.
3, 2, 1.
Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle Tête au carré. C'est Violaine Ballet qui réalise cette nouvelle émission consacrée aujourd'hui au rire. Et pour développer très sérieusement le sujet, quoique, je suis avec l'écrivain, psychanalyste et philosophe Daniel Cibony. Bonjour.
Bonjour.
Vous publiez chez Odile Jacob L'essence du rire et de l'humour. Et dans ce nouvel ouvrage, eh bien, vous avez cherché à comprendre ce qui est en jeu dans le rire. Vous comparez le rire à une secousse de sens et de surprise qui nous permet de sortir du cadre de l'ordre convenu. Alors comme le rire est une des manifestations les plus fédératrices qui soit, eh bien nous allons passer cette heure ensemble pour partager votre analyse du phénomène et les auditeurs vont nous rejoindre avec les messages qui arrivent déjà sur le site de la Tête au Carré, sur franceinter.com et je vous retrouve donc déjà. Dans un instant, déjà effectivement avec ces messages. On se retrouve après la revue de presse. C'est Chantal de Montagnier qui a préparé ce dossier avec Lucie Sarfati et Anne-Cécile Perrin.
Revue de presse.
La revue de presse 2S des sciences.
Dans le Figaro d'aujourd'hui, on apprend qu'un moulage du cerveau de Cro-Magnon va être réalisé les unes après les autres. Les milliers de pièces archéologiques du musée de l'Homme sont revisitées par les nouvelles technologies. Après avoir passé les momies égyptiennes au scanner, les chercheurs se penchent donc sur l'une des pièces les plus prestigieuses du musée, le crâne de Cro-Magnon. Découvert en 1868 en Dordogne, ce fossile de 28 000 ans date du Paléolithique supérieur. Mondialement connu, ce crâne est si bien conservé qu'aucun scientifique n'a voulu prendre le risque d'abîmer une pièce si précieuse. Grâce au scanner médical, le chercheur Antoine Balzeux a pu reconstituer avec une grande précision l'image en trois dimensions du crâne de Cro-Magnon. Pour réaliser cette pièce, les paléontologues ont fait appel à Initial, une entreprise spécialisée dans la reconstitution de prototypes pour l'industrie à partir d'images 3D. Antoine Balzeux a expliqué à Sophie Bécherel à quoi ressemble le cerveau de Cro-Magnon après le passage au scanner.
Il ressemble tout à fait à un cerveau d'homme moderne, d'homo sapiens, puisqu'il est de la même espèce que nous. Mais il a quelques différences. Déjà, il est plus grand que la moyenne actuelle. Il fait à peu près 15 à 20% de plus de volume qu'un cerveau moyen d'homme d'aujourd'hui. Et puis, il a quelques petites différences liées justement à cette grande taille par rapport à ce qu'on connaît chez les hommes actuels. On a une précision qui est très très bonne, déjà parce que ce fossile est très bien conservé et puis qu'on a pu avoir des données de très bonne qualité. Mais en fait, ce qu'on va pouvoir décrire, c'est tout un ensemble d'informations parce que le cerveau, durant sa croissance, va laisser des marques sur la surface interne du crâne, mais vraiment des marques très fines, de très nombreux détails. Donc on arrive à repérer comme ça les petites veines qui circulent sur la surface du cerveau, même les veines les plus grosses évidemment, et puis même les limites entre les différentes parties du cerveau, les différents lobes, et vraiment des structures extrêmement fines, millimétriques, qu'on arrive à observer et à décrire sur un endocrâne.
L'étude de ce moulage va donc permettre d'étudier les changements de forme du cerveau d'Homo sapiens à travers l'évolution, et s'il représente un intérêt scientifique pour les chercheurs, cette reconstitution est aussi une avancée en termes de muséographie. Le moulage devrait être présenté au musée de l'Homme à côté du fossile du crâne de Cro-Magnon à partir du 17 mars. Y a-t-il un lien entre les récents séismes dans le monde? C'est la question du jour posée dans la Croix. Et pour y répondre, Denis Sergent a interrogé Michel Granel, le directeur du réseau national de surveillance sismique à l'Observatoire des sciences de la Terre de Strasbourg. Depuis début janvier, vous le savez, le globe a en effet connu pas moins de 4 gros tremblements de terre, sans compter les répliques. Le plus important était bien sûr celui qui a frappé Haïti le 12 janvier. Un second est survenu au large du Chili le 27 février. Et puis on apprenait également qu'un autre au large de Sumatra s'était produit le 5 mars. Et hier matin, enfin, un séisme de magnitude 6 a causé la mort d'au moins 57 habitants en Turquie. Face à une telle série, beaucoup de gens se posent donc la question de savoir s'il existe un lien de cause à effet entre les séismes. Ce n'est pourtant pas le cas, explique Michel Granet, car ces différents séismes ne mettent pas en jeu les mêmes plaques lithosphériques. Le contexte géologique et tectonique n'est pas le même et ça n'est pas la seule différence. Les quantités d'énergie libérées lors de ces glissements varient énormément. De même même que les vitesses de déplacement des plaques, moins de 2 cm par an en Haïti, supérieures à 6 cm au Chili. Le sismologue rappelle par ailleurs que la dérive des continents se produit à l'échelle géologique, c'est-à-dire avec un pas de temps beaucoup plus lent que d'autres phénomènes naturels. En moyenne, on observe chaque année à travers le monde un séisme de magnitude 8 et une dizaine de magnitude 7. En bref, également dans la Croix, on apprend qu'Haïti peut s'attendre à de nouveaux séismes. Ce sont en effet les conclusions du sismologue Eric Calais au terme d'une mission d'observation. Le professeur à l'université de Purdue en Indiana recommande aux autorités haïtiennes de développer les normes parasismiques et de les faire respecter en vue de réduire la vulnérabilité du pays. Et puis enfin, la longue liste des bouleversements consécutifs au réchauffement climatique. Le magazine Sciences Humaines, ce mois-ci, révèle qu'il pourrait y avoir des conséquences inattendues dans le domaine de la santé mentale. Dans les pages actualités donc, de Sciences Humaines, Jean-François Marmion s'est intéressé aux recherches récentes menées par deux médecins de l'Institut of Psychiatry du King's College à Londres. D'après leurs analyses, l'impact entre réchauffement climatique et troubles mentaux pourrait s'avérer important. Les scientifiques distinguent deux types d'effets de l'évolution annoncée du climat. Certains sont directs, d'autres indirects. Comme les personnes les plus fragiles psychologiquement semblent présenter davantage de troubles respiratoires et cardiovasculaires que la population normale, l'élévation de la température aggrave directement leur vulnérabilité. De plus, l'article précise que la chaleur augmenterait le risque de suicide. Pour ce qui est des effets indirects, les chercheurs estiment qu'ils seraient liés à l'émergence de nouveaux conflits et à la précarisation des populations contraintes à la migration par la montée des eaux. L'équilibre mental des personnes les plus fragiles pourrait là encore être affecté. Si les arguments des scientifiques londoniens peuvent sembler évasifs et peu convaincants, Jean-François Marmion note dans la conclusion de son article que ses travaux ont quand même l'avantage de souligner le fait que les répercussions psychiques des bouleversements climatiques sont très peu étudiées et encore moins prises en compte au niveau politique.
La tête carrée sur France Inter.
Détruire un homme, il faut lui donner ce qu'il veut. Toi, c'est tous les jours que tu me donnes l'amour du pain et des jeux. Unis dans la cité du vice, par un prêtre en costume d'Elvis, j'avais des as de pique plein les manches. Toi, du sang sur ta robe blanche. Le front d'une dame de cœur au ventre rond, et dans ce pick-up en plein désert, lorsqu'astiquant mon revolver, tu as murmuré, il est de toi, d'un valet tu as fait un roi. Personne pour régler ma dette à ce jeu.
Love and casino. Go go where you wanna go. Don't tell me it's
maison Tellier avec Suite Royale, extrait de leur nouvel album L'Art de la Fugue, qui est sorti hier en partenariat avec France Inter.
C'est l'heure.
La tête. Mathieu Vidard.
Mathieu Vidard.
La tête.
Ok, où?
Le magazine scientifique de France Inter.
Daniel Sibonier, vous êtes philosophe, écrivain, mathématicien, psychanalyste et vous êtes donc l'invité de l'émission à l'occasion de la sortie de votre livre « Les sens du rire et de l'humour » aux éditions Odile Jacob. Les auditeurs nous rejoignent donc déjà avec les messages sur franceinter.com. Est-ce que votre métier de psychanalyste vous donne souvent des occasions de rire? Est-ce qu'on se marre sur ou derrière le divan à l'écoute de la parole?
Et le rire qui m'a le plus touché dans la pratique thérapeutique et analytique, c'est plutôt le rire qui surgit en même temps entre analyste et patient lorsque quelque chose de nouveau est découvert qui aide le patient à réellement s'en sortir. Et donc, on rit parce que c'est la délivrance et non pas on rit pour se délivrer ou pour aller mieux. C'est tout à fait autre chose.
Mais c'est une délivrance partagée en plus.
Bien sûr, on rit. C'est comme s'il y avait un lapsus commun, mais quelque chose qui se fait à deux. Et je pense d'ailleurs que la vraie sortie dans les impasses qu'on essaye de travailler, d'élaborer pour en sortir, la vraie sortie, elle se fait à deux. C'est-à-dire que quand le patient et l'analyste et sont soudain devant une surprise, et ça peut faire rire souvent. Sinon, le patient peut rire de certaines choses et pas l'analyste. L'analyste peut sourire s'il comprend certaines choses qui sont encore hors d'atteinte. Mais le vrai rire que j'ai perçu, c'est le rire de la découverte, le rire de la mutation. D'ailleurs, dans mon livre, j'en donne des exemples où, alors qu'on parlait de la mort du père, on parlait de choses très dures, etc. Soudain, la patiente se met à rire, éclate de rire, non seulement délivrée de tout un deuil qu'il a travaillé, mais intéressée soudain par un autre aspect qui n'apparaissait pas, qui apparaissait bizarre. Et il y a toutes sortes de rires dans l'acte thérapeutique.
Oui, le lapsus doit prêter beaucoup au rire, j'imagine.
Le lapsus peut très bien faire rire dans des dîners, des soirées mondaines, etc. Mais imaginez quelqu'un, un patient qui fait un lapsus où, par exemple, je ne sais pas, il donne comme numéro de téléphone le téléphone de ses parents morts il y a 20 ans. Ça ne le ferait pas rire du tout. Il peut se dire mais j'en suis là. Et donc, il peut y avoir des lapsus tout à fait angoissant, inquiétant, sidérant, mais il y en a évidemment qui sont drôles, puisque toute la théorie de Freud sur le rire dans les mots d'esprit, etc., tient à la levée du refoulement. Et ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, et j'espère, j'ai su après coup que je pense y être arrivé, c'est englober l'approche de Freud et d'autres approches, notamment celle de Bergson, dans une nouvelle.
Alors, vous dites que vous avez réussi à faire rire des mourants et que ça, d'ailleurs, ça vous a fait rire.
Ben oui. Hein? Une fois, j'étais plusieurs fois. Parce que d'abord, il faut vous dire que moi, je suis né à Marrakech. Et à Marrakech, dans les années 50, et le rapport à la mort n'était pas aussi aseptisé qu'il l'est aujourd'hui. On voit des cortèges.
Aseptisé et caché.
Caché, refoulé. Aujourd'hui, quelqu'un vous avoue qu'il a perdu sa mère la semaine dernière. Vous vous apprêtez à dire des paroles de réconfort, etc. Et soudain, il vous fait entendre qu'il faut zapper ça. On n'en parle pas. Donc, on avait un rapport à la mort tout à fait familier. Et donc, ça m'est arrivé à l'occasion de décès. Pendant qu'on est en train, là, réunis par terre, en deuil, de faire rire et de sentir le rire. Et un jour, j'ai vu certains des miens qui avaient reçu une nouvelle de la mort de leur père, lointain, dans un pays lointain, etc. Ils se sont réunis, je les ai isolés dans une pièce. Moi, j'étais en dehors, j'étais enfant. je les ai entendus crier d'abord, puis gémir, puis parler, puis murmurer, puis éclater de rire.
Oui. Alors ça, c'est une question qui revient souvent d'ailleurs dans les messages des auditeurs. C'est Manuel, par exemple, dans le Finistère, qui nous dit que des personnes de sa famille ont des réactions spéciales du rire, et en particulier cet exemple que beaucoup d'entre nous ont vécu d'ailleurs face à la mort, à l'occasion d'un enterrement, pouvoir être pris d'une crise de fou rire. Qu'est-ce que ça dit, ça, de nous?
Alors ça, c'est encore autre chose, parce que ce que je viens de décrire tout à l'heure, c'est une espèce de descente lente dans la vie après avoir été sonné.
Oui, là, c'est le rire instantané, voilà. Direct.
Tandis que là, ce dont parle cet auditeur, ce sont des situations fréquentes, pas seulement devant la mort, mais devant une situation d'angoisse extrême, etc. Vous avez des personnes qui rient comme si quelque chose en eux, d'abord, recevait. D'abord, le rire, c'est de recevoir un choc. Toujours.
C'est la secousse dont vous parlez ?
C'est le rétablissement d'une secousse. On ne s'en rend pas compte quand on entend une blague, on voit une situation drôle. Ma théorie, c'est qu'on reçoit une secousse dont on n'est pas conscient et qui vous coupe le souffle. Et que le mouvement même du rire est une façon de récupérer son souffle. Et donc, rien n'empêche de penser que dans ces situations, ces gens ont reçu une secousse terrible et que, pour ne pas s'effondrer, quelque chose en eux de plus vital est venu s'interposer et a lancé ce rétablissement du souffle et de la vie.
Donc il y a quelque chose de physiologique qui intervient.
Absolument, absolument, par le rire que les autres ensuite interprètent très souvent de travers.
Oui.
Quelqu'un dans une classe est complètement coincé par les questions du prof, etc. Il pique un fou rire. Le prof va se mettre hors de lui, croire qu'il se fout de lui, alors que ce n'est pas du tout ça. Il y a des rires d'angoisse. Mais ça, les bouddhistes l'avaient dit depuis longtemps. On peut rire de tout, de l'angoisse, de la joie, de la tristesse, du danger. Les gens qui, devant le danger, éclatent de rire. Donc le rire, et c'est pourquoi ça entre dans ma théorie du rire comme rétablissement après une secousse, après même un trauma. Évidemment, il y a d'autres rétablissements, les larmes, il y a d'autres rétablissements, le symptôme, on se fabrique un symptôme, d'autres rétablissements, l'angoisse, etc.
Alors, est-ce que c'est le propre de l'homme, le rire? Ça, c'est une question également qui revient beaucoup, que vous pose Dada par courriel. Aristote disait ça. Est-ce exact? Les humains sont-ils vraiment les seuls à rire?
Alors, cette question est intéressante parce qu'elle a plusieurs faces. D'abord, est-ce que c'est le propre de l'homme? Et bien sûr, on peut l'entendre. Est-ce qu'il est le seul à rire? Bien sûr qu'il n'est pas le seul à rire. Et bien sûr qu'il n'est pas le seul à pleurer, qu'il n'est pas le seul à aimer, qu'il n'est pas le seul à parler, même il y a un langage des animaux, etc. Donc on a cherché beaucoup le propre de l'homme et on ne l'a pas trouvé.
Oui, de plus en plus d'ailleurs,
et
c'est
voilà,
difficile de le trouver.
Et l'homme est peut-être, pas dans les espèces animales, peut-être l'espèce qui ne se laisse pas définir, qui n'a pas une feuille de route, une règle du jeu pour le jeu de sa vie, etc. C'est peut-être ça le propre de l'homme. Et du coup, j'ai voulu donner quand même un sens à cette phrase d'Aristote, parce que j'aime bien Aristote, et même si je ne partage pas sa philosophie. Et je pense que dire que le rire, c'est le propre de l'homme, il faudrait ajouter, c'est le propre de l'homme en tant que dans le rire, l'homme célèbre, se réjouit d'être impropre à lui-même. Et ça, c'est le propre de l'homme. Le propre de l'homme, c'est d'être inadéquat à lui-même et d'essayer de faire avec cette inadéquation des choses plutôt adéquates, des choses ratées, des superbes trouvailles, mais d'assumer cette inadéquation. Et le rire nous donne l'occasion, souvent, de la confronter, de l'affronter au moins, pas toujours de l'assumer.
Alors, c'est effectivement l'occasion, c'est bien ce que vous expliquez, de pouvoir de temps en temps sortir du cadre, de la norme auquel nous sommes pratiquement tous soumis et que tout d'un coup, malgré nous, il y a quelque chose qui s'échappe, hein, et c'est le rire.
Absolument. Et le premier cadre qui est le nôtre, c'est ce qu'on appelle son identité. Le premier chapitre de mon livre s'appelle « Rire ». C'est se secouer l'identité.
Oui, c'est joli.
Exactement,
ça. Hein.
Comment on se secoue les puces, on secoue un tapis poussiéreux, etc. C'est-à-dire, c'est sentir un ébranlement de son identité, puis la rétablir petit à petit. Et à mon avis, on l'a rétablie trop vite, parce que l'ébranlement, il valait la peine. Quelquefois, rire, c'est s'empêtrer dans le cadre. C'est pas forcément sortir. Des fois, on rit de mal entrer dans le cadre. Charlot et toute une veine comique, c'est s'empêtrer dans une loi, s'empêtrer dans une règle, dans une admission à un groupe. Vous connaissez ces blagues de Max Brossel qui dit « Moi, je ne peux pas supporter d'appartenir à un groupe qui admettrait des gens tels que moi. Mm-hmm. » Donc, c'est le paradoxe d'entrer tout en sortant, tout en revenant, etc. Donc, il y a un jeu avec le cadre, avec la loi, avec l'identité. Mais c'est un jeu secouant et qui se fait quand même sous le signe du plaisir.
Alors je vous propose justement d'écouter Raymond Devos qui en 1967 parlait du rôle de l'amuseur, un comique qui prend en charge, dit-il, les soucis de ses semblables pour les amuser.
Un comique est un monsieur qui, pour amuser ses semblables, prend en charge ce qu'il considère comme leurs soucis. Il se penche sur la question, il regarde ce qui préoccupe, ennuie, détériore la vie des gens. Et il s'invente autour de ça une petite histoire où il se place comme le personnage central, c'est-à-dire la victime. Les gens qui voient leurs propres soucis pris en charge par ce monsieur, dans la mesure où c'est traité sur un plan comique, c'est-à-dire où on montre l'angle comique de la chose, on l'atténue et c'est fini. Les gens sont donc débarrassés de ces soucis-là.
Vous dites volontiers que le comique, l'amuseur, joue le rôle d'un paratonnerre.
C'est ça, oui. Bon, moi, c'est ça. Il attire sur lui les ennuis, et dans la mesure où il les prend à sa charge, la foudre ne tombe pas sur le voisin.
Oui, mais en sortant du théâtre...
Ah, c'est terminé. Ça, vous savez, c'est pour ça que tout ça est léger. C'est pour ça que tout ça n'a pas grande importance. S'il suffisait de le faire une fois pour que les gens soient véritablement débarrassés, alors ce serait une thérapeutique prodigieuse. On irait plus chez le médecin, on irait chez le comique, n'est-ce pas ?
1967, Raymond Devos.
Ça me touche beaucoup, parce que... D'abord, je ne reconnais pas le ton de Devos en tant que comique. Là, on sent qu'il réfléchit, il discourt, c'est sérieux.
La voix n'est pas la même du tout.
Ouais. La voix n'est pas du tout la même. Le charme n'est pas le même. Là, je m'excuse pour lui, mais je l'aime beaucoup. Il n'avait aucun charme.
Et il ne vous fait pas rire, évidemment. Mais ce n'est pas le but, là.
Et ce qu'il fait, c'est simplement réexpliquer la catharsis d'Aristote. Ça veut dire que sur la scène, il y a un monsieur ou une troupe de théâtre, comique ou tragique, qui prend en charge les malheurs de la cité et les gens sortent après avoir pleuré ou ri. Ce qu'il fait, c'est pas du tout ce qu'il vient de dire, c'est très en deçà de ce qu'il fait, lui. Et c'est pour ça que je lui ai consacré deux interludes dans mon livre, parce que j'adore ce qu'il fait et j'en ris avec plaisir, parce que ce qu'il fait, c'est justement au-delà de ça. Il prend pas en charge les problèmes des gens, parce que ça serait les imiter. Ça serait le rire de l'imitation. Le rire de l'imitation qui occupe toutes nos scènes aujourd'hui. Le rire de la caricature, de la moquerie, etc. Lui, il pousse ça à la limite. Je dirais qu'il imite des gens qui n'existent pas, qui sont au-delà de notre existence banale. Et là, il ouvre une petite fenêtre poétique dans laquelle les deux rires que je distingue, le rire de signification et le rire du grotesque, communiquent, se nourrissent l'un l'autre, etc. Et quand l'opération est réussie, c'est pas simplement qu'on sent, on se sent mieux, mais on se sent toujours mieux. Déjà, les endorphines, les hormones, tout ça se porte mieux quand on rit, mais c'est pas le problème, c'est que quand l'opération est réussie, je dirais, on sent qu'il y a du possible, simplement. Une petite ouverture, et c'est celle qu'il fait.
J'entends une critique de la nouvelle génération des comiques dans ce que vous nous dites, Daniel Siboni. Vous ne riez pas du tout à ce que vous entendez aujourd'hui ?
Non, je ne dirais pas une critique. Je consacre un chapitre à ce qui s'appelle d'abord « rire en groupe ». Parce que rire en groupe, on n'a pas besoin de comique.
On va en parler, oui.
Et puis, rire en groupe spontanément, pas seulement rire en groupe exprès, enfin pour bien se porter. Mais je consacre un chapitre à faire rire la foule et j'analyse différents procédés. Je constate simplement que le rire de l'identification, de l'imitation, de la caricature, etc., est de loin prépondérant, ce que je comprends. Je veux dire, justement, par le principe de la catharsis que De Vos a bien rappelé, c'est-à-dire que on voudrait que les gens s'identifient à soi parce qu'on s'est identifié à eux. Et si vous voulez, les comiques sur scène, comme tous les acteurs, ils cherchent l'amour.
Alors Louis nous dit ceci par courriel, « Souvent je ris sans raison apparente et souvent les gens croient que je me moque, alors que, dit-il, c'est une réaction nerveuse. » Vous êtes d'accord avec ça ?
Exactement, mais sauf que dans « nerveuse », je ne peux pas me permettre de me contenter de ce mot. « Nerveuse », comme on disait autrefois, les maladies nerveuses.
Oui.
Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus précis, on peut dire, bon, vous riez à quelle occasion, et en analysant les occasions, on trouverait comment c'est un rire d'autosuggestion, comment c'est un rire de dissuasion, comment c'est un rire phobique, comment c'est un rire d'angoisse, comment c'est un rire de rappel où presque la personne est possédée par une autre, par un fantôme presque, un revenant, qui rit pour elle comme pour la soutenir. Il y a toutes sortes de rires. Dans la première page de mon livre, j'en aligne une bonne trentaine, mais ça peut continuer. Donc, ce rire de sans raison, je dirais que ça touche même à l'essence du rire. Parce que rire avec raison, accordez-moi que c'est un peu plat.
Et ça ne fonctionne pas vraiment, d'ailleurs.
Voilà.
Vous restez avec nous, Daniel Cibogni. D'autres messages pour vous dans un instant sur franceinter.com.
Ah pas mal, hein, pas mal.
Pas mal, pas mal.
Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, tu croises le vent marot, prudent, prends garde à ton chapeau. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marot, prudent, prends garde à ton chapeau. Les gens foutraient, les gens trouvent, mélisent du vent furibond, qui rebrousse les bois, retousse les toits, détrousse les robes. Des gens foutres et des gens probes, le vent, je vous en réponds, sans souci, et c'est justice, comme de Colin tampon. Si par hasard, sous le pont des arts, tu croises le vent fripon, hey, prudence, prends garde à ton jupon. Bien sûr, si l'on ne se fonde que sur ce qui saute aux yeux, le vent semble une brute raffolante, nuire à tout le monde. Mais une attention profonde prouve que c'est chez les fâcheux qu'ils préfèrent choisir les victimes de ces petits jeux. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard,
we'll be right back.
chapeau.
Le vent, et c'est la version de Catherine Ringer sur France Inter.
Mon médecin est fou. Un jour, en pleine nuit, il me téléphone. Il me dit, voilà, je viens de recevoir du laboratoire les résultats de nos deux analyses. Il me dit, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, en ce qui me concerne, tout est normal. Par contre, pour vous, c'est inquiétant. Ben, j'ai dit, quoi, qu'est-ce que j'ai? Il me dit, vous avez un chromosome en plus. Je lui dis, c'est-à-dire que vous avez une case en moins. Lui, ça signifie, ben, il me dit, ça signifie que vous avez le virus du tueur. Vous êtes un tueur, né. Je dis, moi, un tueur. Il me dit, je vous rassure tout de suite, c'est pas dangereux pour vous. Mais pour ceux qui vous entourent, ils doivent se sentir visés. Je dis, mais je n'ai jamais tué personne. Il me dit, vous inquiétez pas, ça va venir. Et il raccroche. Alors, toute la nuit, j'ai entendu mon chromosome en plus qui tournait en rond dans ma case en moins. Le matin, je me réveille avec une envie irrésistible de tuer quelqu'un. Il fallait que je tue quelqu'un, mais qui tuer ? Hein, je me disais, qui tuer ? Enfin, qui tuer ? Hein ? Non, mais pas qui tuer dans le sens qui es-tu, toi qui cherches qui tuer. Ou dis-moi qui tuer, je te dirai qui tuer. Ah ben, qui j'étais ? Ben, je le savais, j'étais un tueur. Et un tueur sensible.
Extrait de son sketch « Qui tuer Raymond Devos » avec notre invité Daniel Ciboni. Et je vous vois encore rire à l'écoute de ce sketch, alors que vous le connaissez, vous l'avez déjà entendu. Comment est-ce que vous expliquez ça, d'ailleurs, qu'on puisse rire à des choses que nous connaissons déjà, dont on connaît les effets comiques ?
Justement, c'est comme si le sketch, le poème, je dirais, nommait un endroit de notre psyché. Et quand il le renomme encore, quand il l'appelle... cet endroit répond présent et rit. Et je ris de la silhouette de Devos que nous ne voyons pas là, mais que je vois, que vous imaginez, qui est comme ça tout rond, qui subit le jeu du langage, le poids du langage, le jeu des mots qui nous déborde et qui dit « si je dis « tu » à ce tueur » et qui le tueur lui demande de le tutoyer, il dit « mais si je dis « tu » à ce tueur, il va me tuer ». C'est une espèce de passion du jeu de la langue. Et ça, c'est comme si il m'appelait, il m'invitait à prendre part à ce jeu.
Donc, et ça marche.
Je ris de plaisir déjà avant d'y aller.
Alors chez Devos, l'humain et l'automate se brouillent et c'est leur embrouille qui nous fait rire. Alors, c'est presque du Devos, mais ça mérite quand même explication.
Eh bien, parce que M. Bergson avait cru avoir trouvé la formule du rire en disant on rit lorsque, à la place de l'humain qu'on attend, c'est l'automate qui apparaît. Exemple, c'est son exemple fameux, vous marchez sur le trottoir, vous n'avez pas vu le bord, vous tombez, on rit. D'abord, ce n'est pas vous qui riez, c'est les autres qui rient, de voir que vous avez fait des gestes automatiques là où l'humain en vous aurait dû percevoir. Entre nous, aujourd'hui, les robots perçoivent bien cet écart et donc ça brouille son distinguo. Et j'aime bien que des sketchs de Devos réfutent ça, cette espèce de vision un peu simple à mes yeux, en montrant que ce n'est pas quand à la place de l'humain vient l'automate. Quelquefois, c'est à la place de l'automate vient l'humain. Quelquefois, c'est entre les deux qu'il y a une embrouille, une dissension. Et là, vous le sentez dans le sketch de Devos. On ne sait plus qui est qui. D'ailleurs, il va rencontrer le premier venu. Il dit, mais non, c'est toi le premier venu. Moi, je t'ai vu le premier, etc. Il y a une embrouille qui reflète bien, qui symbolise bien l'embrouille des relations humaines, des rencontres, où chacun vient avec son sac de casseroles, de symptômes, et l'autre vient avec, et puis on ne fait pas attention, des casseroles s'enroulent l'une sur l'autre, et s'il n'y a pas quelqu'un pour rire, pour interpréter, pour dénouer, comme on dit, mais c'est la violence. Eh bien, c'est une des sources du rire, elle est là même où il y a la violence, mais le rire, il sait en faire quelque chose qui est une espèce de trauma surmonté, de danger éludé.
Alors, ce qui est étonnant, c'est le temps très court, évidemment, de la manifestation du rire. Cette secousse, elle est imperceptible, elle intervient tout de suite. Vous citez cet exemple, quelqu'un marche sur un trottoir, il se casse la figure, ça fait rire les gens autour de lui. Si la personne qui tombe avait été dans le public, dans les spectateurs, elle aurait ri elle aussi. Mais comme elle est auteur, acteur de la situation, dans cette fraction de seconde, ce n'est pas le rire forcément qui va venir en premier. C'est plutôt la gêne, l'observation de ce qui l'entoure. Comment on explique ça? Parce qu'elle pourrait aussi...
La personne, d'abord, souvent, est mortifiée. Je veux dire, et là, ça nous mène vers une autre région de cette recherche que j'ai faite. J'appelle la peur du ridicule et le fait d'être ridicule. Fait de faire rire les autres à ses dépens, de voir les autres rire à ses dépens. Et là, c'est toute une problématique qui touche d'ailleurs celle du viol. Parce que cette peur du ridicule, c'est la peur pratiquement d'être nu, d'être à nu face au regard des autres. Voilà, imaginez...
Avec le rire qui peut devenir une arme redoutable aussi. Hein.
Bien sûr, si, mais en même temps, si la personne est touchée à mort par ce rire, c'est qu'elle a mis ces personnes-là à une place. Et vous imaginez, vous savez, des gens meurent si on a ri d'eux à la télé. Mais parce que dans leur économie psychique, la télé, c'est le haut lieu de tout ce qu'il y a de plus noble, de plus important, de plus respectable. Mais imaginez une autre personne pour qui le plateau télé, c'est vraiment pas grand-chose, c'est du plastique, du toc, et des gens qui passe là-dedans, on a ri de lui ou d'elle. Bon, très bien. Les rires suivants effacent les précédents. Elle n'est pas mortifiée. Mais vous savez très bien qu'il y a des gens pour qui ça a été un drame à vie.
Et pour qui c'est insupportable aussi d'avoir des gens qui rient et qui manient l'humour aussi.
Mais j'ai écrit, avant ce livre, j'ai écrit un roman qui s'appelle Marrakech, où il y a plusieurs situations de rire. Je raconte une enfance qui était un peu la mienne. Et il y a l'enfant que j'étais, qui est en classe, et voyait toujours le prof, qui lisait ses rédacs parce que, justement, il les trouvait insupportables. Il disait à toute la classe, après les avoir lus, c'est le modèle de ce qu'il ne faut pas faire. Mais entre-temps, quand il les lisait, toute la classe riait, y compris l'élève. Pourquoi? Parce que ça mettait à nu toute une façon d'être, une façon de vivre qui était la nôtre, comme si les gens découvraient leur intimité, mais le fait de la découvrir en groupe n'avait rien d'inquiétant, était même plutôt rassurant, voire complaisant. Et il y a évidemment une autre situation où cet adolescent voit des gens rire de lui, il demande quelque chose, non seulement on la lui refuse, mais on rit de lui, et là, c'est une scène beaucoup plus dramatique. Donc il y a le même rire comme ça qui atteint une personne peut vraiment la soulever, la renverser, ou peut au contraire l'intégrer au rire humain qui continue.
Isabelle est à Lyon. Peut-on imaginer, demande-t-elle, qu'il existe un individu qui n'a pas le sens de l'humour ni le sens du rire et donc pas le sens de son inadéquation?
Alors, c'est parfaitement exact. Non seulement c'est exact, il y a des gens qui n'aiment pas rire, hein, qui trouvent que rire, c'est pas sérieux, justement, et eux sont sérieux. Il y a des gens qui n'ont pas le sens de l'humour. Il y a même un monsieur qui s'appelait Staline, qui était bien connu, un grand massacreur d'hommes devant l'Éternel, qui a dit un jour, un peuple heureux n'a pas besoin d'humour. Écoutez ça, c'est savoureux.
Mais heureusement, le rire s'invite aussi même chez ces gens-là.
Eh ben justement,
malgré eux,
S'il l'a dit, d'abord, c'est qu'il a bien vu que son peuple, bien qu'il était obligé d'être heureux puisqu'il était dirigé par Staline, il n'était pas si heureux que ça, et que l'humour et le grincement étaient monnaie courante, précisément parce que c'était le dernier repli. Mais c'est vrai qu'il y a des êtres humains, je dirais pas des normaux, j'appelle ça des normosés, qui sont tellement comme ça cadrés, carrés, etc., que c'est pas la tête au carré. La tête au carré, c'est la quadrature du cercle. Oui. Donc, c'est impossible. Tandis que des gens carrés, il y en a, et qui... Et lorsque vient l'événement qui va faire une rayure dans leur carrelage, eh ben, ils le rejettent tout simplement, ils ne le voient pas.
Alors, le rire moqueur, vous en parlez aussi beaucoup. Il est très fréquent, le rire moqueur. Est-ce que c'est le plus facile, finalement, à manifester ?
Ben, c'est le rire, si vous voulez, qui est basé sur ceci. Et il y a toujours la syncope, le danger, etc. Mais j'y ai échappé. Ça veut dire, je ris, je me moque de celui qui est tombé dans le panneau où moi, je ne suis pas tombé, soi-disant. Donc, c'est un rire où les gens se satisfont un peu à plusieurs niveaux. C'était drôle. Si ça m'était arrivé, ça aurait été pas drôle. Mm-hmm. J'aurais été obligé du rire. C'est maintenant l'autre qui est obligé du rire. Oui. Et on rit pas tellement de l'autre, bien qu'il se soit fait avoir. Vous savez qu'à Sparte, on arrêtait les voleurs parce qu'ils s'étaient, on les punissait parce qu'ils s'étaient fait arrêter. C'est pas parce qu'ils volaient. Donc là, on se moque de lui parce qu'il s'est fait avoir, mais aussi parce que la situation était un peu drôle.
Mais est-ce qu'il y a un bon et un mauvais rire ? Parce que vous avez eu peut-être La Croix qui titrait la semaine dernière l'Empire de la dérision, avec l'humour mordant qui prend de plus en plus de place au point d'exercer, hein, disait La Croix, parfois un pouvoir excessif. Alors, bon, mauvais rire, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Pas du tout. Et je crois qu'il y a un rire bon et un rire mauvais. Où il y a un rire de quelqu'un qui est mauvais.
C'est plutôt ça, voilà.
Mais évidemment. On ne va pas se mettre à faire des prélèvements dans les rires pour voir qu'est-ce qui est bon et mauvais. Mais il y a des gens bons, des gens moins bons, des gens médiocres, des gens mauvais, des gens méchants, des gens destructeurs. Et quand l'un de ces gens rit, son rire porte cette marque. Mais je serais beaucoup moins alarmé que ces gens qui poussent des cris, peut-être qui eux-mêmes ont été atteints. Mais je suis moins alarmé parce que je crois vraiment que les lieux où ça rit, où ça se moque, etc., c'est des lieux télévisés, c'est visible, audible, des émissions. Mais les gens croient que c'est entendu par tout le monde, que c'est vu par tout le monde, au même instant, que quand vous avez reçu une moquerie, mais c'est la terre entière qui est au courant.
C'est l'écran du narcissisme ultra-amplifié.
Voilà, c'est une atteinte tout à fait mince, minime.
Donc vous dites, remettons les choses à leur place. Voilà.
Je dirais que...
La télévision n'est qu'un écran de plastique, hein, pour reprendre ce que vous disiez.
En tout cas, je dis que la médiocrité des médias nous protège de leur pouvoir.
Daniel Cibony, vous restez encore avec nous. On va parler du rire thérapeutique. Vous avez aussi beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. Serial lovers, vain liars, liar brothers, global war. Serial lovers, vain liars, liar brothers, end of love. Wiping out the integrity, losing out the priority. By the grace of caste, updated by the clash. All in Sunni prosperity, all in Sunni tragedy, religious irony, prime time on TV. Jackals, data by some others, bata. Taking advantage of somebody else's mashed up. So stand up to reality, stand up for morality, to the rays of love and the disgrace of. Out of control, we are getting out of control. Love is a crime, acid is a lime, criminal liars, victim of savior, money, profit, kills, everybody got his own thrill, so hopeless I felt, and loveless I left, for absolutely nothing is another one you killed, for you I wrote this beautiful song, about how love and hope I've gone, and I will kill your fame, you loveless king, like a whirlwind, no spring, believe it, like a whirlwind, no spring, I mean it. Out of control, we are getting out of control.
come, come on. You've been gone too long. The lights are on. Your arm is gone. You've been too long. It's all gone wrong. The family is gone. I'm sitting alone. The pain is gone. The sun has shone. My youth is gone. The light is gone.
Beast avec Out of Control.
Le très gros problème qu'on a sur les médias, c'est que le temps de parole n'est pas suffisant pour exprimer la pensée.
Carré.
Oh mon Dieu !
Parce qu'on est dans une époque qui ne veut pas penser.
Écoutez, vous n'êtes pas au courant ? Vous êtes à la radio-télévision française ?
Oui. On a identifié où se passent les difficultés, quelles sont les molécules biologiques qui sont impliquées, et on commence à voir quelques antidotes pour ça.
La tête sur France Inter.
Daniel Ciboni, vous publiez L'essence du rire et de l'humour aux éditions Odile Jacob. Je signale d'ailleurs que demain, vous donnerez une conférence dans le cadre de votre thème sur les symboles, les jouissances, les pouvoirs, les histoires de corps. Ce sera la troisième séance sur corps, art et pouvoir. Et c'est donc demain à 20h. C'est à l'Hôtel de l'Industrie, 4 place Saint-Germain-des-Prés à Paris. C'est dans le 6e arrondissement. Et on peut s'inscrire en appelant le 01 45 44 49 43. Toutes les infos sont sur le site de la Tête au Carré. Olivier nous envoie ce message de Cannes. Comment se fait-il que moi, Olivier, suis reconnu dans mon travail comme quelqu'un qui possède beaucoup d'humour et qui met l'ambiance dans une dynamique de groupe ? Eh bien, je me retrouve à faire des crises d'anxiété et je suis traité pour une dépression. Il précise qu'il travaille dans le secteur psychiatrique depuis 20 ans.
Ah. Mais de toute façon, même s'il avait travaillé dans le conseil ou dans l'informatique,
donc joyeux de rire, ça ne change rien. En public et au fond.
Voilà, ça veut dire que le personnage de l'humoriste qu'il joue face aux autres pour avoir leur amour, parce que faire rire, c'est obtenir de la reconnaissance, obtenir de l'amour. Donc le personnage qu'il joue, il le joue très bien, mais que ça lui évite à un certain temps de regarder dans les coulisses. Et dans les coulisses, il y a de l'angoisse, de la dépression, etc. Qui d'ailleurs s'accompagne assez bien d'humour. Vous savez, il y a des humours qui sont des... On voit bien que la personne, elle surfe entre un peu d'angoisse, un peu de mélancolie et un peu de joie. Et ça surfe pas mal du tout, mais ça peut tomber d'un côté ou de l'autre. Et donc, l'humour n'est pas si loin d'une certaine mélancolie. Moi, je dis l'humour, c'est se consoler d'en être là où on est, mais se consoler quand même, c'est-à-dire reprendre le harnais et puis y aller.
Céline nous écrit d'Aix-en-Provence, il existe à l'université de Mulhouse une option humour, moi je l'ignorais, c'est une première en France, nous dit-elle, j'ai fait un master 2 en droit et durant les 4 années de mes études j'ai pris ce cours, ça m'a fait du bien, et on peut étudier sérieusement l'humour, le prof nous disait tout le temps que c'est souvent les gens intelligents qui ont de l'humour, ah bon ?
Je sais pas, c'est une... Oui, il y a sûrement une question d'intelligence parce que il faut doser. Vous savez, dans l'humour, c'est pas des blagues.
Oui, on parle du sens de l'humour. Voilà. Le rire, c'est autre chose.
Voilà, l'humour, en fait, ça fait sourire. C'est une façon d'être où on se prend pas trop au sérieux, mais quand même un peu. Où on attire sur soi le ridicule, mais pas complètement parce qu'on rit avec parce qu'on désarme l'agressivité des autres. C'est très subtil, l'humour. Vous savez, un des traits d'humour que moi j'adore, qui est un trait d'humour anglais, où le condamné à mort, c'est qu'on emmène à l'exécution le lundi matin, qui dit, qui lève les yeux au ciel, dit, la semaine commence bien. Mmh. Et je trouve ça très beau, parce que il riposte avec ce mot, commence, la semaine commence. Il riposte à une loi qui a ses raisons de l'envoyer en dehors de la planète. Mais il marque, il plante son drapeau. Il pose un mot et par là, il affirme une dignité. Donc le rire, c'est l'humour, pardon, c'est vraiment très, très frontalier.
Alors décidément, il se passe beaucoup de choses à Mulhouse, puisque non seulement il y a une option humour, mais également, vous allez l'entendre, un club de rire. On va parler de thérapie par le rire, avec l'extrait d'un reportage diffusé en 2003 dans l'émission Les Pieds sur Terre sur France Culture. Un club qui véritablement fait des émules dans toute la France. Témoignage des adeptes de cette thérapie par le rire.
C'est Daniel Kiefer qui est à l'origine du club de rire à Mulhouse. Il avait vu un reportage sur le docteur Kataria. C'est un médecin généraliste de Bombay qui est parti de la constatation que ces malades qui rigolaient, qui étaient heureux, guérissaient souvent plus facilement. Et donc il a cherché un moyen de faire rire les gens. Donc il a commencé par réunir des amis autour de lui, des gens sur une plage, et puis ils se racontaient des histoires drôles. C'était bien, mais au bout de 10-15 jours, ils avaient terminé leurs histoires, ils n'avaient plus rien à se raconter. Donc il a cherché un moyen de rire sans raison. À ce moment-là, il s'est tourné vers le yoga, qui propose des exercices de respiration, et il a rajouté des exercices de rire par-dessus ces exercices de respiration. Voilà, et puis ça a entraîné des fous rires pendant les séances, quoi, et puis il a vu que ça marchait bien.
Alors, c'est vous qui êtes le chef du rire ce soir, c'est ça?
Ce soir, c'est moi qui fais l'animation, oui. On va commencer bientôt, hein, avec ceux qui sont là. Alors, au téléphone portable, on fait comme les gens qui sont dans la rue, qui se promènent en téléphonant. Et nous, on va se raconter à nous-mêmes des histoires drôles au téléphone, donc on va rigoler en même temps qu'on téléphone. Hein, et on va se promener comme ça, se regarder bien dans les yeux, le téléphone collé à l'oreille et rigoler de bon cœur, hein. Vous êtes prêts? Donc à 3, 2, 3.
Alors, Daniel Siboni, vous parlez des rigolothérapeutes dans votre livre.
Oui.
Ça veut déjà dire quelque chose de ce
Mais
que...
Non, c'est eux qui s'appellent
rigolothérapeutes. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez?
Des rigologues.
De ces rires sur commande, finalement.
Si vous voulez, moi, ça me rappelle... une anecdote où un chef de service à l'hôpital avait demandé à un psy d'assister à la consultation. Et le psy a dit, j'ai remarqué que l'essentiel se dit sur le pas de la porte. Après, le chef de service a dit, on va faire les consultations sur le pas de la porte.
Ouais.
Moi, je trouve que c'est une façon de prendre les choses à l'envers, de dire, puisque le rire fait du bien, rions, ça nous fera du bien. Mais c'est clair que ce qui manque là-dedans, ce n'est pas l'authenticité, hein, parce que ces gens rient sincèrement.
Ouais.
C'est très facile d'obtenir un rire spontané comme ça et qui se prolonge surtout par contagion dans un groupe.
Oui, oui.
Mais je dirais que la pensée ne rit pas.
Il y a le corps, mais il n'y a pas la pensée.
La pensée ne rit pas. Mmh. Or, le rire, c'est quand même un sacré entrechoc entre la chair et le verbe. Et c'est en ça qu'il a quelque chose de génial.
Alors justement, Pierre nous dit ceci. Ma femme a toujours un fou rire avant d'avoir un orgasme. Pourquoi ? Vous dites
le
que
rire,
le rire comporte du sexuel. Hein.
Ah le rire, je le montre, mais j'espère délicatement dans tout le livre que le fil du rire et le fil du rapport sexuel vraiment se stressent l'un avec l'autre.
Mmh.
Et que, en fait, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais le chatouillement, c'est un moment crucial du rire. Et c'est le contact, c'est la pénétration qui n'a pas lieu. Autrement dit, le sexuel, le plaisir avec le corps, grâce au contact et à la pénétration par un autre corps, c'est une rencontre érotique géniale.
Mais pour ceux qui souhaitent en savoir plus, il faudra le découvrir dans votre livre « L'essence du rire et de l'humour » que vous signez aux éditions Odile Jacob. Merci Daniel Siboni.
Merci.
On vous réinvitera, on fera cette fois-ci une émission sur les mathématiques parce qu'on a peu l'occasion de les traiter et on fera ça ensemble, d'accord?
Pourquoi pas.
À bientôt.
C'est tout?